Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. À la longue liste des prédateurs sexuels, Émile-Louis Michel Fourniret, nous pourrions peut-être aussi ajouter l'ogre du petit poucet, à moins qu'il ne soit au contraire au tout début de cette lugubre liste et que les pervers du monde entier en soient issus. L'ogre comme symbole du mal et de la perversion, voilà ce que nous allons tenter de comprendre en compagnie du docteur Dominique Desmichel, médecin et psychanalyste. Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Nous avons vu dans notre précédente émission que le mal naissait d'une absence de pensée, d'une absence de relation à soi-même, à son intériorité. Et dans le cas de l'ogre, dans le cas qui nous occupe, on le voit au moment où il passe à l'acte, c'est-à-dire qu'il va tuer ses victimes la nuit sans même jeter un coup d'œil à leur visage, d'où d'ailleurs son erreur.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je pense que dire, par exemple, que l'ogre, c'est simplement un monstre, évidemment, c'est sûrement tout à fait juste, mais il ne s'agit pas par là de le déresponsabiliser. Ça serait, au fond, le considérer comme un enfant. C'est d'ailleurs très important quand on est dans la relation d'altérité avec l'autre, de tenir là aussi, alors c'est compliqué peut-être ce que je vais vouloir dire, de tenir l'accueil de ce qu'il est et de l'exigence qu'on a peut-être le droit de lui demander. Alors, on reprendra peut-être ça plus tard. Je reprends à partir de votre question. Je pense que cet ogre-là, dans le conte, en effet, c'est comme s'il ne se connaissait pas, comme s'il n'avait pas de position autre que... à partir de ses pulsions, et des pulsions qui considèrent tout son entourage comme des objets. Finalement, pour l'ogre, l'enfant n'a pas de visage, il n'a pas d'identité, dans le sens de Lévinas. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce visage qui est porteur de l'interdiction du meurtre, dit Lévinas. Hein. C'est-à-dire, au fond, il n'a pas du tout de culpabilité. Il n'y a rien à l'intérieur de lui qui interdise le crime. Il faut rappeler que la culpabilité, tout le monde se plaint, tout le monde se sent coupable, c'est pas bien, etc. Il y a certes une culpabilité qui est stérile et qui est paralysante, mais il faut se rappeler que la culpabilité, c'est le premier rempart contre le meurtre. Voilà, chez les pervers, il n'y a pas de sentiment de culpabilité. Monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Parce que je désirais cet enfant. Mais, trois petits points, je ne savais pas que c'était mal. Et le pire, c'est qu'ils sont sincères. Hein, c'est ça qui est tout à fait terrible.
J'aimerais qu'on revienne sur la question de la responsabilité, peut-être, parce que j'imagine, chez les juges, c'est une question extrêmement difficile. À quel moment un type qui entend des voix dans sa tête lui disant de tuer quelqu'un, ou bien qui reçoit des pulsions, est responsable? Alors évidemment, parfois il est responsable, parfois il est déclaré, comme on l'entend parfois aux infos, irresponsable. Où se trouve la limite, selon vous, en tant que psychanalyste?
Quand il entend des voix... il est dans le registre de la psychose, pas dans le registre de la perversion. Hein.
Le pervers... Peu importe, parlons du mal en général.
C'est pas la même chose.
Je suis tout à fait d'accord, sur la question du mal, peuvent commettre un meurtre, si vous voulez.
Non,
celui qui entend des voix et qui lui dit de tuer quelqu'un ne va pas passer à l'acte.
Tout le monde a toujours peur des schizophrènes qui ne sont pas mis dans un hôpital psychiatrique, qui n'ont pas suffisamment de... Voilà. Mais la dimension de la dangerosité des schizophrènes est largement surmédiatisée. Hein. Donc, ceux qui commettent des crimes, c'est ou des gens parfaitement névrosés et qui en font leur profit, soit éventuellement des pervers. Hein. Donc, on voit ça dans le cadre de la perversion, mais pas dans le cadre de la psychose avec... Voilà.
La question de la responsabilité ne se pose pas. Ils sont de toutes les manières responsables, quel que soit le niveau de perversion.
Ce qu'on dit, c'est considéré comme ça. Hein. Actuellement,
la justice considère
qu'ils ne sont pas dans un état d'hallucination, ils n'ont pas eu des visions, ils n'ont pas une psychose. La psychose ouvrant vers la possibilité d'être, pour des raisons psychiatriques, reconnu comme irresponsable. Ce n'est pas le cas dans la perversion. La perversion, pour l'instant... D'ailleurs, les gens de la réalité... les gens n'ont pas de décalage par rapport à la réalité. On leur dit, c'est passé ça, bah oui, c'est passé ça, vous avez fait ça, bah oui, c'est passé ça. Voilà, ils n'ont pas de décalage par rapport à la réalité. Ils peuvent nier pour des raisons de confort ou parce qu'on leur a conseillé, mais voilà, ils n'ont pas de problème avec la réalité.
Mais ce qu'on voit, et c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que le remords, par contre, n'existe pas. Il y a une totale absence de pensée affective.
Voilà. C'est-à-dire, l'ogre, finalement, il est dans une espèce de pensée opératoire. La pensée opératoire, ça veut dire quoi ? C'est une pensée qui a comme objectif d'accomplir ce qu'elle veut, sans aucune discrimination, sans cette fonction d'évaluation dont j'ai parlé lors de la dernière émission. Et cette fonction d'évaluation, elle est essentiellement basée sur les sentiments. Donc cet ogre, il court après les frères, il obéit à ses pulsions, il est marqué par une espèce de déficit émotionnel massif. C'est-à-dire, voilà, probablement on l'arrêterait, on lui dirait, il est quelle heure ? Je vais dire du n'importe quoi, il vous donnerait l'heure gentiment, il repartirait, puis voilà. C'est-à-dire, il n'y aurait pas du tout un sentiment intérieur. Au fond, il est vide. Son crime, finalement, c'est de n'avoir aucun sentiment, aucune capacité d'élaboration psychique, aucune capacité à comprendre ce qui se passe, et évidemment, cela ouvre au pire de l'humain. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'approche de Hannah Arendt, hein, vous savez, dans le procès de Eichmann, où elle s'est rendue en 1961 à Jérusalem pour assister au procès de cet homme, et elle explique, au fond, que cet ancien SS avait bien conscience de faire le mal, mais qu'au fond... Il n'était pas un sadique absolu. Elle dit qu'il était normal, qu'il a été un homme ordinaire, qui était victime d'un système. Et ce qu'elle va dire, au fond, c'est que, probablement il s'agit de l'essentiel de ce qu'elle a apporté, même si ça a été très largement discuté après, elle dit que cet homme n'avait aucune pensée, aucune capacité à réfléchir ou à travailler en lui la question du sens de son acte, de la justesse de son acte, de la justesse de ses actions. Au fond, il ne savait pas distinguer le bien et le mal. Et donc, il y aurait deux lectures qui seraient faites. Une qui serait de dire que, fondamentalement, il est un pervers, comme probablement pas mal de nazis, en tout cas ceux qui ont commis les plus pires des choses. Et puis l'autre, c'est que, finalement, il y aurait une sorte de banalité du mal, hein, c'est là, le grand thème de Hannah Arendt, de banalité du mal qui appartiendrait à l'intérieur... de nous tous, même si elle est discutée.
Je me permets de vous interrompre, docteur Dominique Michel, mais peut-être une troisième forme que l'on retrouve dans tous les contes, c'est-à-dire la pensée qu'il y a des forces du mal, des forces de l'obscurité extérieures à l'homme, et qu'on retrouve aussi dans les contes, les forces de l'obscurité sont, on a vraiment l'impression qu'elles sont extérieures à l'homme et qu'elles s'abattent sur le monde et que justement le héros lutte contre ces forces-là. C'est difficile de balayer totalement cette idée-là également.
Je ne sais pas si je la comprends très bien, votre idée, au fond. Je vais me placer...
L'existence du diable, tout simplement.
Oui, mais pour moi, c'est quelque chose qui appartient à l'homme. Vous voyez, par exemple, on dirait jamais d'un chien, d'un sanglier ou d'un lion qu'il est possédé par le mal. Hein, parce que il n'y a jamais d'intention chez les animaux... de méchanceté. On ne voit jamais ça. Un animal, évidemment, les animaux, on se nourrit en permanence de vivants, que ce soit du poireau ou de la gazelle pour nous, le poireau, pour le lion, la gazelle. Mais c'est toujours avec la nécessité de se nourrir sans aucun sadisme, sans aucune perversion, en tout cas. Donc, il me semble quand même que cette notion du bien et du mal, qui est quand même une des notions fondamentales posées dès le texte de la Genèse. Donc on voit, voilà, et la vie et la mort, et la question du bien et du mal, ce qui est une question tout à fait fondamentale, et tous les philosophes même l'épopée de Gilgamesh, hein, on voit ça déjà, donc très tôt se sont posés cette question-là. Moi je dirais non, ça appartient à l'homme, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit extérieur. La dimension d'évolution à l'intérieur de nous-mêmes, elle passe par nos pulsions et elle passe par une dynamique qui me paraît être la dynamique du soi. Mais la pulsion en elle-même, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est ce qu'on va faire de cette pulsion qui fait qu'on va en faire quelque chose du côté du bien ou du côté du mal. Et la pulsion de grandir, par exemple, elle n'est pas... on voit ça, par exemple, dans la dynamique des archétypes à l'intérieur d'un individu qui surgit dans les rêves, qui surgit dans sa vie. Elle n'est ni bonne ni mal. Elle est là pour inviter à quelque chose. Voilà, de temps en temps, vous pourriez vous dire que bah, ça serait très, 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 très bien, finalement, pour avoir le poste de votre patron, que vous le poussiez du haut de la falaise. Voilà. Et bah, ce n'est pas une mauvaise idée, finalement, pour avoir le poste. Ce n'est pas une mauvaise idée. Simplement, il y a d'autres instances qui vont venir réguler ça.
Alors, je reviens à Hannah Arendt, d'ailleurs. Comment lutter contre l'absence de pensée qui serait, qui pourrait être à l'origine du mal ?
Ben, ce qui me semble, c'est Hannah Arendt, elle parle du clivage. Hein. Elle dit que Eichmann avait clivé son action de ses sentiments, c'est-à-dire il avait mis ses sentiments. Il y a pas mal de nazis dont on connaît un tout petit peu l'histoire, qui rentraient chez eux le soir, qui étaient des bons pères de famille, attentifs à leur épouse, n'oubliant pas d'apporter des fleurs, de fêter un anniversaire, etc. Voilà, donc dans quelque chose qui avait de l'air d'être ajusté, avec une capacité d'évaluation, voilà. Donc là, il y a un mécanisme de clivage, de séparation. Clivage, ça veut dire il y a une vie d'un côté, puis il y a une vie de l'autre. Il y a Dr. Jekyll, Mr. Hyde, qui se rejoignent pas. Je crois que cette capacité à maintenir un espace de délibération à l'intérieur de nous-mêmes, un espace de délibération intime, affectif, ça permet d'avoir moins de risques de commettre le mal. Voilà. Et quand il y a une absence, une diminution, voire une absence totale de délibération intérieure, alors on trouve une espèce de place, de champ libre, d'immenses parkings qui est prêt à s'ouvrir à la pulsion. Donc l'idée d'Arendt concernant le mal dit il y a une absence de pensée. Alors moi, dans mes mots, je ne le dirais pas absence de pensée, parce que je pense que ce n'est pas du côté de la pensée. C'est du côté de la fonction sentiment, c'est-à-dire de la capacité à l'intérieur de nous-mêmes à donner de la valeur aux choses.
Alors, Hannah Arendt parle aussi de l'absence de culture aussi qui peut rentrer en ligne de compte, parce que Eichmann, elle le décrit comme quelqu'un, excusez du propos, un peu bourrin, quoi, qui réfléchit pas beaucoup plus loin que le bout de son nez, qui est un bon fonctionnaire, qui fait ce qu'on lui dit, mais qui n'est jamais allé voir plus loin pour réfléchir à sa condition et au sens qu'il donne à sa vie. Donc la question de culture est aussi importante.
Alors, dans ce que ça m'évoque, moi je dirais il y aurait deux dimensions. Une dimension qui serait du côté de la culture qui s'oppose à la nature. Dans un espèce de schéma un petit peu classique. Là, je dirais, je suis d'accord, si on pense que la nature, par exemple, c'est du côté de la pulsion. Hein, la nature est fondamentalement pulsionnelle. Et dans ces cas-là, la culture, elle est là pour venir compenser la dimension pulsionnelle des pulsions ou la dimension pulsionnelle de l'homme. Ça, je suis tout à fait d'accord de ce côté-là. Si on l'entend qu'une espèce de culture, dans le sens universitaire, viendrait... réguler les capacités que chaque individu a à tenir ses pulsions, très honnêtement, cette culture de type universitaire, j'y crois pas beaucoup. Parce que, à mon avis, ce n'est pas du côté du savoir, ce n'est pas du côté de la fonction pensée, c'est du côté de l'éducation au sentiment. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, voilà, cette fonction d'évaluation... Bien évidemment, elle va être transmise par les parents, elle va être transmise par les enseignants, elle va être transmise par les amis, par tout ça.
L'éducation au sentiment, elle passe aussi par la philosophie, pourquoi pas ?
Oui, oui, oui. Ah ben dans la philosophie,
Ça passe aussi par l'histoire, par tout ça.
Voilà, voilà.
Ça nous apprend aussi à prendre du recul sur notre propre situation, voilà. Puis à envisager l'avenir et surtout à envisager l'autre. Dans même n'importe quel roman, et ben nous permet d'imaginer ce que peut ressentir l'autre.
Tout à fait.
Nous allons en venir après. Ouais.
Voilà. Mais tout à fait à bien comprendre que dans ces cas-là, c'est pas une culture en tant que contenu de savoir, mais c'est en tant que mise en perspective du
expérience,
monde,
presque.
Représentation. Et au fond, tout à fait, vous avez raison, expérience, voilà. Tout le monde reprend les personnages de Rastignac pour parler d'hommes politiques, etc. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été repris à partir d'un savoir littéraire, comme dans Dostoïevski, dans le rapport à la souffrance et au rapport.
Docteur Dominique Desmichel. Et pourtant, à un moment donné de notre histoire avec le petit poussé, le mal s'essouffle. L'ogre a beau courir après le petit poussé, et bien à un moment donné, il est fatigué et il s'effondre près du rocher. Quel est le sens à donner à cet essoufflement du mal, alors qu'on a dit que cette chaîne du mal, eh ben, elle avait du mal à s'arrêter, surtout quand on avait été victime.
C'est une question vraiment intéressante. Je dois dire que je ne me suis pas énormément, dans la lecture du conte, arrêté sur le fait qu'il était essoufflé. Moi, j'aurais tendance à penser que cet ogre-là, il s'arrête essoufflé juste parce qu'il n'a pas consommé. Il n'a pas consommé. Donc, à partir du moment où les pulsions sont réfrénées, où les pulsions, non, plus exactement, ne peuvent pas se déployer, il y a quelque chose qui s'épuise. Parce que cet ogre-là, il est entièrement dans sa pulsion. Au fond, il n'a pas d'imagination, il ne sait pas penser, il ne sait pas réfléchir, il ne sait pas ressentir, surtout. Hein, voilà. Il n'a pas, au fond, d'expérience. Et puis, l'autre élément aussi qui est important, c'est que le petit poussé, il a repris les bottes de cet lieu. Donc, il court très, très vite. Donc, c'est aussi, dans l'expérience humaine, le fait que l'autre résiste à nos pulsions à faire le mal, par exemple, qui peuvent nous permettre d'apprendre. Donc, je pense que l'ogre, ici, il n'apprend rien, enfin. Et le conte nous montre, d'ailleurs, qu'on s'en fout de l'avenir de l'ogre. Hein. Au bout d'un petit moment, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le petit poussé ait pu résister à cet ogre pulsionnel. C'est ça qui est important. Donc, je pense qu'il s'endort parce que... Voilà, peut-être parce qu'il n'a pas d'imaginaire. Il n'a pas d'imaginaire, voilà. Hein. Et quand on ne peut pas réaliser quelque chose concrètement, eh ben, on se réfugie dans l'imaginaire. Et ensuite, si on peut élaborer encore plus, alors on va passer au symbolique, c'est-à-dire de se dire que la relation symbolique, affective, par exemple, elle est... elle est extrêmement, extrêmement précieuse et qu'elle remplit une vie, elle remplit le cœur des hommes. Voilà. Alors que consommer l'autre, voilà, ça va donner du plaisir, mais ça ne va pas donner du bonheur.
Alors, depuis un certain nombre d'émissions, docteur Dominique Demichel, nous cherchons à comprendre l'ogre, nous cherchons à comprendre le mal, mais peut-on se mettre à la place de l'ogre? Ça nous paraît, en tout cas à moi, cela me paraît impossible.
Non, je pense que ce n'est pas du tout...
Voire risqué.
Oui, probablement risqué. Je pense que de temps en temps, si on est vraiment vigilant par rapport à soi-même, on peut repérer de temps en temps des petites notes perverses susceptibles de se mettre en acte dans notre vie, il me semble. C'est-à-dire de temps en temps, même si on est vigilant par rapport à soi, même si on a cette capacité d'évaluation, même si on a ce dialogue à l'intérieur de soi-même en se disant qu'est-ce qui est juste, voilà, il y a un désir, il y a une attente, j'ai des sentiments vis-à-vis de, je sais pas, telle ou telle personne, qu'ils soient positifs ou négatifs, voilà, qu'est-ce que j'en fais, voilà, si c'est négatif, je vais peut-être pas l'étrangler, si c'est positif, ben, je vais peut-être pas lui sauter dessus pour, je sais pas trop quoi, lui demander son amitié ou autre chose. De temps en temps, quand même, il y a ces petites notes.
Mais c'est risqué. Je me souviens du témoignage d'un psychanalyste qui était spécialiste des tueurs en série, qui expliquait ses rencontres avec Michel Fourniret et Émile Louis. C'était pas de tout repos, surtout avec Michel Fourniret, qui était, paraît-il, quelqu'un manipulateur et quelqu'un d'une extrême intelligence. Donc il en ressortait parfois totalement vidé.
Oui. Ah, oui,
et voire à douter de lui-même et de son travail.
Ah oui. Oui, je pense. Moi, je sais que personnellement, je ne reçois pas de gens pervers dans mon travail d'analyste parce que il n'y a pas cet espace intérieur qui leur permettrait de bouger. Je pense qu'il y a quelque chose qui est complètement fixé chez eux et donc il n'y a pas de travail possible. Voilà. Donc ces psychanalystes qui vont écouter en effet les pervers comme ça, je ne sais pas très bien comment ils font, mais alors en plus...
Mais faut-il chercher à les comprendre quand même? Voilà ma question. Ou alors c'est le mal, on les laisse en prison pendant 99 ans et on n'en parle plus.
Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux. Hein. Par exemple, vous savez que pendant les attentats de Paris qui ont été revendiqués par Daesh, là, les opinions ont été très en opposition, elles se sont affrontées quant au fait de savoir s'il était moral, s'il était licite de rechercher à comprendre ce qui pouvait se passer dans la tête d'un terroriste. Et on a pu dire, au fond, que tenter de comprendre, c'est en quelque sorte prendre le risque de justifier un certain comportement. Moi, je crois que ne pas tenter de comprendre et de ne pas tenter d'essayer de mettre le mal en perspective, c'est s'exposer à continuer, il me semble, à s'en faire complice. Et en particulier, moi, dans les modalités de défense perverse des patients que je reçois, c'est vrai que je suis très souvent mal à l'aise parce que si je n'interviens pas en rappelant que la perversion, les modalités de perversion, les modalités relationnelles perverses, c'est pas des modes de vie, c'est pas possible, ça apporte jamais de la vie, je vais m'en faire complice. Hein. Donc je peux bien comprendre en effet ça. Mais quand bien même on accepte le mal comme intrinsèquement lié à une liberté fondamentale à l'intérieur de nous-mêmes, liberté tout à fait incontournable, il me semble que tenter de le saisir, c'est justement affirmer que cette liberté qui est à l'intérieur de nous-mêmes, elle peut être corrompue, mais qu'elle peut être aussi réparée. Voilà. Alors ça, je crois que ça vaut fondamentalement pour les modalités de défense perverse, mais que ça ne vaut pas pour les structures perverses. Hein. Donc il y a des gens qui ont pu développer des modalités relationnelles de type perverse pour se défendre, souvent parce qu'ils avaient été eux-mêmes victimes, mais où leur structure de fond leur permet d'élaborer et de comprendre la nature et surtout l'intention, en l'occurrence perverse, de leurs actes. Et ça, ça peut bouger. Donc dans ces cas-là, c'est possible. Ailleurs, je ne suis pas très très sûr, ou en tout cas, ça ne relève pas de ma compétence, je ne sais pas trop quoi vous en dire.
Alors, comprendre, ce ne veut pas dire justifier.
Non, non, non. Dans le texte là-dessus, d'ailleurs, je fais un petit jeu de mots en disant que, vous savez, l'ogre, il a été, on dit dans le... qu'après s'être endormi, il a été victime de voleurs. Alors je fais un petit jeu de mots en disant que avec un petit iota, le petit i grec, un petit iota, le mot voleur devient violeur. Et se dire que l'ogre, qu'on pourrait justifier la position de l'ogre parce qu'il aurait été victime, ça n'est pas aidant. Ça rejoint, il me semble, ce qu'on disait en tout début de la précédente émission, hein, ce que vous disiez, ou de celle-ci, je ne sais plus exactement, à propos de la loi du talion. C'est-à-dire...
il y a 15 jours.
C'était il y a 15 jours, voilà. Donc l'idée, c'était de reprendre cette idée qu'il y a besoin d'une réparation. Alors, c'est une observation toujours, c'est une expérience périlleuse que d'essayer d'écouter l'autre dans les zones les plus sombres. C'est aussi prendre le risque énorme de le considérer comme un enfant si on ne lui renvoie pas à lui-même sa propre responsabilité. Hein. Donc, dans les structures profondément perverses, je ne sais pas répondre. Dans les modalités de défense, avec des mises en acte de gestes ou de comportements pervers, oui, je crois que là, il faut renvoyer l'autre à sa responsabilité. Et pour rejoindre ce que vous disiez à propos de la justice et de la notion de réparation, il y a là quelque chose qui est fondamental, c'est le travail de la justice, qui est de dire justement que voilà, toute blessure imposée par quelqu'un à un autre exige une réparation. Cette réparation, elle passe par plein de biais, mais elle est in fine, elle fonctionne lorsqu'elle est et affective et symbolique.
Elle fonctionne, mais elle est loin d'être parfaite, comme le rappelait Emmanuel Levinas, où se pose la question d'une justice marchande, où celui qui est le meilleur avocat, celui qui est plus riche, n'a pas tout à fait, malheureusement, la même justice que le quidam.
Et puis, on ne reviendra jamais, en tout cas, à la situation antérieure d'avant.
Il ne faut jamais l'oublier, ça.
Grave. Oui, jamais.
Alors, mettons-nous quelques instants, nous avons encore quelques minutes, docteur Dominique Demichel, mais alors, du côté du petit poucet, parce que le petit poucet, lui, contrairement à tout ce que nous venons de dire, parvient à contrer le mal. Alors, pour terminer cette émission... peut-être qu'on pourrait rappeler les caractéristiques, les qualités du petit poucet qui font qu'il arrive à contrer ce mal-là. Et nous le verrons dans une prochaine émission, les modalités dans leurs détails. Alors, ces qualités, quelles sont-elles? Nous avons parlé, je me souviens, du silence, de l'écoute.
Oui, moi je dirais d'abord ce petit poucet, moi je trouve tout à fait extraordinaire. Hein. Il est d'abord courageux, du début jusqu'à la fin, il est très courageux. On voit qu'il va écouter les conversations des parents. C'est pas très simple d'écouter les conversations des parents. Il va se glisser sous le siège de son père. Il va sortir au milieu de la nuit pour ramasser des cailloux. Ensuite, il va garder son pain pour pouvoir semer les petits morceaux de pain quand on l'empêche de sortir pour aller chercher des cailloux. Ensuite, il va avoir le courage au cœur de la nuit dans la forêt de monter en haut d'un arbre. Ensuite, il va se dire, en emmenant toute sa fratrie, on va aller jusqu'à la forêt. Il va se confronter avec la femme de l'ogre. Il se confronte avec l'ogre lui-même. Ensuite, quand il est, j'imagine, au premier étage et que le couple en bas est en train de finir le repas, il échange les couronnes, c'est-à-dire il vient dire quelque chose du côté de sa propre identité, c'est-à-dire il refuse d'être victime, hein, c'est-à-dire non, non, je ne veux pas être une victime passive. Puis il se saisit des bottes et finalement, vous vous rappelez, dans la dernière petit paragraphe rajouté à la fin, il choisit d'être le messager du roi pour aller transmettre les messages entre, là aussi, des parents et des enfants. Et un père qui est tout seul, le royaume, il n'y a pas de reine, et puis des soldats dans une espèce de guerre qu'on imagine évidemment intérieure.
Alors si je reprends ce que nous avons dit un petit peu plus tôt, on parlait de l'évidence, de la liberté pour faire le choix du bien et du mal, c'est vrai qu'il semble être libre jusqu'à transgresser. Ben, il ne se couche pas la nuit, il écoute ses parents, il transgresse quelque part une loi parce qu'il a cette liberté intérieure.
Parce qu'il a cette liberté intérieure et puis parce qu'il est investi par sa mission. Hein. Je rappelle hein, qu'il a 6 frères et sœurs, ou 6 frères plus exactement, il n'y a pas de sœurs, hein. Il y a 6 frères avant qui sont arrivés 2 par 2. Et lui, il est le petit poussé. Le petit poussé, c'est le pouce. Le pouce, c'est celui qui s'oppose aux autres doigts. On n'a pas 6 autres doigts, on n'en a que 4 dans une main, en plus du pouce. Mais il est là dans une position singulière. Hein. Donc, on peut très bien imaginer que l'inconscient familial des parents, là, a enfanté, en l'occurrence pour de vrai, avec ce 7e enfant, un enfant réparateur. Hein, ici, voilà. Je crois que c'est cette idée-là ici qu'on peut garder.
Et on a également un petit poussé qui ne se pose pas de questions. Ça, c'est un petit peu étonnant, mais qui agit. Il ne se demande pas pourquoi mes parents veulent m'abandonner. Il ne cherche pas à débattre avec ses parents pour leur prouver qu'il serait, je ne sais pas moi, plus profitable de garder ses enfants et puis de les faire travailler, par exemple. Il agit.
Oui. Il agit. C'est très très énigmatique la notion d'acte courageux. Parce que le plus souvent, quand on parle d'un acte courageux, c'est d'abord et avant tout un acte. Alors, l'acte courageux, il est toujours marqué par quelque chose qui est de l'ordre de l'instant et qui est de l'ordre d'une rupture. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Quand on dit « il a été courageux », c'est-à-dire il y avait une situation qui était figée ou qui allait vers un destin un petit peu tragique. Et puis, il y a quelqu'un qui est intervenu. Il y a le Bruce Willis du coin qui est intervenu et hop, il a posé un acte. Donc, il y a cette notion de rupture, et il y a une rupture qui fait sens et qui porte vers la vie, évidemment. Hein, le courage, ça ne porte pas vers la mort. Hein. Voilà, on pourrait rediscuter un petit peu de ça, mais...
Mais
voilà.
Nous en rediscuterons, docteur Dominique Demichel, parce que malheureusement, là, notre émission touche à sa fin.
Bon.
Et bien, nous reviendrons dans 15 jours pour aborder ce conte du côté du petit poussé et savoir comment il parvient à lutter contre les forces du mal.
Merci Simon, au revoir.